Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Rancière, qui vous permet d'entendre chaque semaine depuis de nombreuses années déjà. Oui, oui, je vous remercie de votre fidélité, Monseigneur Philippe.
Trois années, Christophe, que nous parlons ensemble, et voilà. Bonjour à tous nos auditeurs.
Voilà, donc Libre Propos, c'est donc l'émission qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, chaque semaine sur des sujets de société. Là, on a des sujets finalement assez graves aujourd'hui à vous soumettre, puisque déjà, nous allons commencer par évoquer l'examen du projet de loi sur la bioéthique au Sénat le 24 juin prochain. Et avant cela, une soirée d'information qui est organisée donc à propos de la bioéthique par Alliance Vita, qui intervient régulièrement sur Radio Rancière. Ce sera la visitation le 22 juin, très important de rester très concentré sur ce projet de loi bioéthique qui se fait un peu de manière détournée. On parle tellement du Covid qu'on ne parle plus d'autre chose.
Oui, merci d'avoir posé la question de la bioéthique et de ce projet de loi. Vous savez, c'est un projet de loi qui est passé déjà à l'Assemblée, qui est passé au Sénat, qui va repasser à l'Assemblée ou qui repasse. Ce qui est compliqué déjà, c'est que et les sondages le montrent. Il y a eu un sondage IFOP à ce sujet-là qui montre que en fait, on est un peu perdu, c'est-à-dire que les Français ne sont pas très au courant. On est tellement assommés de commentaires sur le virus qu'au fond, et les vaccins, qu'au fond, ça passe entre deux nouvelles, même pas, parfois, on n'en parle pas. Mais c'est un sujet qui a une vraie gravité, parce qu'il va toucher à la question de la vie, comment est-ce que la société française envisage la vie humaine. Et là, l'Église, effectivement a toujours défendu la vie, qu'elle soit depuis sa conception dans le sein maternel jusqu'à la fin de vie digne, d'accompagner par les soins palliatifs, par exemple, des personnes en fin de vie, mais dignement, parce que leur vie est peut-être marquée par une diminution de leur capacité, mais la vie en soi existe, la vie en soi, elle est digne jusqu'à la fin, même si les gens sont dépendants. Alors c'est sûr que ce projet de loi, il va d'une chambre du Sénat au Parlement. Mais on voit bien qu'on a franchi à nouveau des lignes rouges.
Alors quelles sont justement
éthiques,
ces lignes rouges, ces points qui vous paraissent entre guillemets redoutables?
Il y a des lignes rouges qui ont été dépassées. Par exemple, on nous dit que la GPA, le gouvernement dit qu'il il n'approuvera pas la GPA. On sait qu'après la PMA, c'est la GPA, donc ça veut dire la gestation pour autrui, pour donner droit à une réclamation d'hommes et de couples d'hommes qui vont dire, après tout, un couple de femmes peut avoir un enfant par une procréation médicalement assistée, on dit une PMA, pourquoi nous on n'aurait pas le droit à avoir un enfant par GPA? Alors du coup, les hommes vont faire ça à l'étranger, ils achètent un enfant aux États-Unis, je crois qu'une GPA coûte entre 50 et 70 000 dollars aux États-Unis.
On l'a tout dit quand on a dit ça.
Alors du coup, la question, c'est qu'est-ce qui devient cet enfant quand il est ramené en France? Et là, on voit qu'il y a un glissement pour qu'il y ait une reconnaissance et une inscription de l'enfant dans les textes, les actes civils français. Donc on permet cela. Donc on reconnaît la GPA indirectement. D'autres points, on a par exemple une dérégulation de la recherche sur l'embryon. Avant, on autorisait des recherches embryonnaires jusqu'à 7 jours de conception. Maintenant, c'est 14 jours. On va de plus en plus bloquer la clause de conscience des médecins, mais aussi des sages-femmes à qui on demande d'intervenir plus, notamment sur les avortements. Enfin, globalement, on voit que l'intérêt est celui du fort. Le fort, c'est l'adulte devant le faible qui est l'enfant, qui ne peut rien faire. On fait prévaloir la demande, alors forcément on va dire, mais c'est merveilleux, un adulte qui n'a pas d'enfant parce qu'il est seul, une femme qui est seule, une femme qui est en couple de femmes, alors il faut aider ces personnes à avoir un enfant puisqu'ils le désirent. Mais on n'a pas un enfant à tout coup, et surtout pas un enfant contre son bien. Or, l'Église défend qu'il y ait un bien absolu, que d'ailleurs tous les grands textes internationaux de droit à l'enfant, de l'enfance, les droits de l'enfance reconnaissent, c'est de connaître son père et sa mère, et si possible d'être éduqué, élevé par son père et sa mère. Donc ça, on supprime le père de l'enfant né par PMA, il sera anonyme, même si à 18 ans, il pourra avoir accès à un dossier pour connaître quel est son géniteur. mais on arrive... Alors ensuite, il y a aussi des manipulations génétiques qui augmentent. On va autoriser de créer des chimères, donc d'associer des cellules humaines avec des cellules animales.
C'est prévu, ça, dans la loi
bioéthique ? Ça, c'est prévu, oui. Alors, bien sûr, on nous dit que c'est en termes de recherche. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'accepterait, au fond, pour les animaux entre eux, en quelque sorte. On augmente maintenant les manipulations génétiques. On va pouvoir... Donc, en tout cas, on va sur un terrain qui est glissant. Je pense qu'on prend des risques grave imprudence pour l'avenir. Et puis, il faut reconnaître que, malgré les bonnes intentions qui peut-être prévalent de temps en temps quand même sur ces questions-là, derrière, il y a une question financière énorme.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 40-50 000 euros. On voit que finalement, ça fait plaisir à tout le monde, si j'ose dire. Les gens qui pensent que, voilà, quand ils ont un désir, il doit absolument être assouvi. Et puis, les entreprises qui se disent, ou certaines entreprises qui se disent, waouh, là, il y a vraiment un vivier pour...
J'ai vu un chiffre récemment que la PMA, donc la proclamation médicament assistée dans le monde actuellement, en 2020, c'est un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars. Qui va doubler sous peu. Donc il y a un business de l'enfant qui devient gigantesque. Oui. Alors, est-ce que c'est légitime ? Moi, je pense que non. On est sur un terrain précieux, la vie est un don, que la médecine aide la vie à vivre mieux en cas de maladie, en cas de difficulté. Bien sûr qu'il faut faire de la recherche. Mais cet enfant, à tout prix, que des adultes veulent absolument... je reconnais qu'il y a un désir, mais parfois le désir est tellement extrême que l'enfant ne correspondra pas à ce désir. Et il pourra décevoir. Et quand l'enfant déçoit, il pourra presque être rejeté, peut-être. En tout cas, je pense que c'est injuste pour ces enfants qui, entre autres, n'auront pas de père.
Ouais. Et puis, finalement, sous couvert d'une loi comme une autre, c'est une révolution anthropologique. Une création de chimères, c'est une révolution anthropologique, quand même.
C'est une lente révolution, étape par étape, programmée, pensée par certains lobbies, qu'ils soient économiques ou philosophiques. Je pense que l'Église... Alors, Alliance Vita est une belle association. Forcément, ses opposants la caricaturent tout de suite comme intégriste, comme réactionnaire, ce qui est faux. Ce sont des gens qui sont... tout à fait dans la vie, qui sont souvent bénévoles, mais qui soutiennent que la vie doit être préservée, protégée, notamment la vie dans le sein maternel, donc la vie que l'on supprime par avortement. Même si je peux comprendre que des situations humaines sont difficiles pour des femmes enceintes, particulièrement quand elles sont seules ou jeunes, ou qu'il y a eu un viol, mais l'enfant reste l'enfant, et l'enfant qui est là a le droit d'être respecté dans sa vie et de vivre.
Pour finir, je rappelle que Alliance Vita donc, vous invite à une réunion d'information qui aura lieu mardi 22 juin à 20h30 à la Visitation. Vous pouvez appeler au 06 74 80 45 77 pour vous inscrire ou avoir plus d'informations. 06 74 80 45 77. Le temps file. Je voudrais qu'on parle de votre dernier message fraternel, Monseigneur, au sujet notamment du mariage chrétien dans un contexte de nouvelles modalités du couple, et puis surtout peut-être le sort des divorcés remariés. Ça, c'est important.
Oui, le texte du pape à Maurice Laetitia est un texte magnifique sur l'amour. Il y a un très beau commentaire de l'hymne à la charité de saint Paul. Le chapitre 8 traite des situations que le pape appelle irrégulières. Donc ça peut être le cas de concubins vivant en union libre, comme on dit aujourd'hui, ou bien des gens qui ont été mariés religieusement et qui ont choisi de vivre une nouvelle union après un divorce. Voilà. Et ce que dit le pape, surtout, c'est l'importance de l'accueil. Souvent, ces personnes-là se sentent exclues. Déjà, dans la société civile, parfois, elles se sentent exclues par les autres. Mais en tout cas, au niveau de l'Église, l'insistance que je relève, moi, et que j'ai écrit dans ce message, aidé par les commentaires du pape, c'est vraiment que ces personnes en nouvelle union vivent quelque chose d'important. Il y a un amour qui porte leur vie, même s'ils sont loin de la norme que l'Évangile propose, hein, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc ils ont séparé une union bénie par Dieu, mais ils sont là. Et même le pape dit qu'ils peuvent vivre en état de grâce, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par la grâce de Dieu dans l'état où ils sont. Cet état, il ne va peut-être pas évoluer, parce qu'il y a une nouvelle vie depuis longtemps. Il y a des enfants, par exemple, qui sont nés de cette nouvelle union. Mais ils peuvent tendre par leurs prières, leur engagement dans l'Église, le service qu'ils vont rendre, la charité qu'ils expriment à d'autres, eh bien, ils peuvent vraiment avoir leur place de témoins de l'amour, de témoins de la foi, et on a besoin d'eux. Voilà, donc qu'ils trouvent dans l'Église, je le souhaite vraiment, une fraternité qui la crée aussi, pour que l'Église soit témoin que dans cette diversité des vies, qu'on n'a pas toujours choisies, qui sont parfois à cause d'éléments qui nous ont échappé en quelque sorte, eh bien, ces personnes soient vraiment reconnues comme frères et sœurs. Oui.
Les divorcés remariés, voilà une situation qui est souvent vécue de manière assez traumatique par les couples donc, de divorcés remariés qui ne peuvent pas accéder à la communion. C'est souvent vécu
douloureusement. Parce qu'on a tellement centré sur la communion eucharistique qu'on a le sentiment que c'est le passage obligé, nécessaire, impératif de toute vie spirituelle. Effectivement, pouvoir communier, c'est vraiment s'engager dans cette alliance avec Dieu en à la suite du Christ qui donne sa vie pour ça, en choisissant de dire non à ce qui est contre sa volonté. Donc il y a un problème à ce niveau-là, dû à cette nouvelle union qui contredit l'engagement à la fidélité pour la vie du premier mariage. Maintenant, comme dit l'Église, les sacrements sont des moyens. On ne vit pas pour avoir des sacrements. On a sur la route de la foi différents moyens pour grandir. Les sacrements est un moyen excellent, bien sûr, mais la parole de Dieu, hein, moi j'aime beaucoup ce verset, Jésus dit « Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons notre demeure. » La vie chrétienne, c'est de vivre en présence du Père, par le Fils Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit-Saint. Alors, certes, certains ne communieront pas, ils pourront se faire bénir en venant les bras croisés sur le cœur à la messe, mais ils reçoivent la grâce dans la mesure où ils l'attendent, ils l'espèrent, et qu'ils prennent, encore une fois, le chemin de la parole, le chemin de la vie ecclésiale, le chemin de la charité. Dieu les bénit, car Dieu n'est pas limité par les sacrements.
Vous dites qu'en fait, donc, les divorcés ne sont pas excommuniés. Quel est le sens finalement du mot excommunication ?
Il y a une confusion absolue. C'est-à-dire qu'on dit ne pas communier, c'est être excommunié. Ça n'a rien à voir. C'est aussi différent que de parler d'un objet et de la liberté. Enfin, c'est deux mots. Excommunier, c'est être, par son acte libre, personnel, exclu de l'Église. Il y a sept causes d'excommunication. Donc, elles sont bien précises et c'est en aucun cas cette situation-là. Donc, un divorcé et même un divorcé vivant en union nouvelle est un baptisé et c'est le baptême qui fonde l'appartenance à l'Église. En rien, cette situation supprimerait cette appartenance à l'Église. Ils ne sont pas excommuniés. Il faut le comprendre définitivement et ne pas mélanger ces deux termes. Ne pas communier à la messe et l'excommunication. Rien à voir.
Alors que l'excommunication, j'imagine que c'est absolument définitif et que ça concerne tous les aspects de la vie d'Église, non ?
Ça l'est sur l'instant parce que c'est une excommunication automatique suite à l'acte que je pose. Par exemple, si je blasphème et que je renie ma foi publiquement, donc j'abjure ma foi, c'est une excommunication parce que publiquement j'ai dit que je n'étais plus chrétien.
Oui, on s'excommunie
soi-même.
Maintenant,
on dit toujours qu'elle est médicinale. Ça veut dire qu'elle est là comme une peine, car c'est grave d'abjurer de sa foi. Quelqu'un qui, par exemple, se convertit à l'islam est excommunié de lui-même. Oui. Mais il peut revenir. Elle est médicale dans le sens qu'il peut dire, au fond, je me suis trompé, je regrette, je demande pardon et je reviens. Et on peut toujours revenir. Encore une fois, c'est pour prévenir quelque part l'acte un peu fou de quelqu'un, mais sans le condamner définitivement.
Merci beaucoup, Monseigneur. On arrive vraiment à la toute fin de l'émission. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait reparler justement de cela, de l'excommunication et des sept raisons pour lesquelles on peut excommuniquer quelqu'un.
C'est vous qui êtes le journaliste, Christophe. Donc c'est vous qui conduisez cet entretien.
Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute, de votre fidélité. Merci à Simon en régie technique. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Grand Ciel.